La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas senti le velours plastifié et orangé de cette chaise, sous mes fesses. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti l'odeur putride du studio après l'enregistrement de l'émission Le S de Lucas Corroy. Bravo le sport. Comme le dit si bien celle qui excelle dans les sorties de cadre.
Vous m'avez manqué!
Et surtout, ça fait longtemps que vous, auditeurs et auditrices, n'avez pas entendu ma voix douce et mélodieuse. Alors voilà, cadeau, rien que pour vous, me revoilà sur vos ondes. Et surtout, surtout, quoi de mieux que de revenir à la matinale un mardi soir, présenter la 7e édition des Mardis de l'Europe. Pour rappel, les élections européennes, c'est le 9 juin, et ce soir à 20h30, 8 têtes de liste débattront sur LCI de leur projet pour l'Europe. Mais en attendant, nous, ici, à Radio Campus Paris, on reçoit en studio Jean-Marc Governatori, co-président et du parti écologie au centre et tête de liste de ce parti aux élections européennes, un parti qui se veut être le premier mouvement écologiste français, rien que ça. Ne se voulant tout aussi ni éco-violence, ni EELV, ni Macronie, ni NUP, ni RN, il se présente comme un parti ni de droite, ni de gauche, centriste, dans un programme brassant assez large, comme avec des thèmes comme reconstruire l'Europe de la paix, sortir l'Europe de la soutenir l'Europe de l'agriculture adaptée, l'Union européenne aux régions et aux Outre-mer. On a tendance à s'y perdre un petit peu ce soir. Jean-Marc Governatori, sera reçu par nos deux chers bénévoles Agathe et Mati pour nous parler de son programme économique pour l'Union européenne. En 2019, le parti n'avait envoyé aucun député au Parlement, n'ayant déposé aucune liste pour les élections. Ce soir aussi, nous aurions dû recevoir le parti fédéraliste européen, mais faute de financement, il a dû renoncer à déposer une liste pour ses élections européennes de 2024. Cette 7e édition des Mardis de l'Europe, ça commence maintenant. Alors aujourd'hui au sommaire et en première partie d'émission, comme je l'ai déjà annoncé, Agathe et Mathieu recevront Jean-Marc Governatori, co-président et tête de liste du Parti écologiste au centre, pour nous parler de ses propositions en termes d'économie pour les élections européennes du 9 juin prochain. Ensuite, en deuxième partie d'émission, Héloïse et Mathis recevront Stéphanie Villet, spécialiste du décryptage de l'actualité économique. Pour les chroniques de ce soir, Sébastien nous fera découvrir son propre programme économique pour l'Europe et Simon nous régalera une nouvelle fois d'une chronique à caractère humoristique.
La matinale de 19h.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 et c'est toujours la matinale. Comme annoncé deux fois maintenant, on commence notre première interview avec Jean-Marc Governatori, co-président et tête de liste encore une fois du parti écologie, au centre, qui répondra aux questions donc d'Agathe et de Mathis. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, on est tout à fait avec plaisir.
Bonsoir monsieur Governatori.
Alors Jean-Marc Governatori, bonjour. Vous êtes comme annoncé le co-président et fondateur du parti écologie au centre. Vous vous êtes fait reconnaître dernièrement grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les affiches de campagne de Juliette de Causan. Est-ce que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage?
Voilà, lutte des classes, ça fait partie des vieux mots. C'est comme la gauche, c'est comme la droite, c'est comme décroissance économique ou croissance économique. Ce sont des vieux mots. Nous, nous sommes nés en 2004, donc nous utilisons les nouveaux termes et les bons termes. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une activité humaine qui est compatible avec la biosphère, dont les priorités sont le plein emploi et la pleine santé.
Et donc vous proposez une écologie au centre, vous explicitez ce concept dans une colonne de Forbes à l'automne 2023 comme une écologie exempte de lutte de classe, donc, et vous semblez même en vouloir sur ça à Sandrine Rousseau. Quand vous entendez la jeunesse manifestante crier « taxer les riches », vous proposez une implication vers un bien commun de ces riches. De quelle nature est cette implication et quelle est la fiscalité écolo pour les ultra-riches?
Contrairement aux politiciens conventionnels qui vivent dans le monde parallèle, donc par exemple Europe Écologie veut supprimer les riches, ce qui est impossible. Glucksmann veut les taxer, ce qui est impossible, puisque leur terrain d'action c'est la planète. Donc si vous les taxez trop dans l'Union Européenne, ils iront se faire taxer ailleurs. Donc il est évident que la nouvelle option c'est de coopérer avec eux, puisqu'il y a en Europe 500 milliardaires et 50 000 ultra-riches. Ils ne sont pas tous malhonnêtes, évidemment, sinon ils seraient condamnés ou en prison. Et donc, nous voulons utiliser leurs compétences. Donc, effectivement, c'est un mot qui est peu usité dans la politique française, le mot compétence, mais il est capital. Le mot compétence est capital pour faire une pizza, pour réparer une fuite de plomberie, mais aussi pour gérer des fonds publics. Donc, par exemple, parmi nos 20 propositions phares, nous proposons que les ultra-riches européens ou français se voient confier une région sur un domaine précis. Sur les quatre fondements de notre projet de société, soit l'agriculture bio, soit l'économie circulaire, soit la rénovation énergétique, soit les énergies renouvelables. Et on les teste pendant 2 ans, on ne leur donne pas de fonds publics, et je suis sûr qu'ils feront beaucoup mieux que la classe politique.
Alors justement, vous proposez, je cite, d'associer les milliardaires et ultra-riches européens pour leur confier la gestion directe dans une région de leur choix pour l'agriculture biologique, la rénovation, etc. Vous ne trouvez pas que les riches ont déjà assez de pouvoir ? Est-ce que votre proposition, honnêtement, ça ressemble à du greenwashing XXL organisé par les institutions européennes ? Dans quel but voulez-vous faire ça ?
Mais moi, je suis un élu de la République. Donc, je me dois de vivre dans le monde réel. Le monde réel, c'est de travailler pour le bien commun. Parce qu'être élu de la République, c'est protéger, prévoir, agir, informer. Force est de constater que le socialisme, le communisme et le libéralisme qui ont été expérimentés ici et là dans le monde ont tous abouti à des impasses environnementales, sanitaires, sociales, économiques et non, où que vous regardiez. Donc il faut bien de nouvelles options et donc il est évident que les compétences de ces individus sont à exploiter et je suis persuadé que quelques-uns d'entre eux l'accepteraient. Et compte tenu qu'on ne leur donne pas de fonds publics, que c'est un test sur 2 ans, sur un élément précis d'un fondement d'un projet de société évolué, c'est forcément tout bénef pour le consommateur, pour le citoyen.
Aujourd'hui, 3 ONG et 8 victimes d'événements climatiques venant du monde entier ont assigné Total Energy, donc une super entreprise du CAC 40 au tribunal de Paris. Est-ce que l'Europe est assez puissante face à ces lobbying et aux campagnes de greenwashing de ces grandes entreprises ?
Il y a plusieurs façons d'améliorer le monde. C'est effectivement la voie judiciaire, très bien. Il y a la voie politique, c'est très bien. Mais il y a aussi le décideur citoyen. Et trop souvent, par souci démagogique, les mouvements conventionnels veulent déresponsabiliser. Ils expliquent que les problèmes, c'est à cause des riches ou à cause des immigrés ou à cause de Bruxelles. Donc nous souhaitons préciser aux citoyens que par leur acte de consommation, par leur choix de consommation, ils vont renforcer Total ou ne pas renforcer Total. Aujourd'hui, il y a 500 000 personnes en France qui vivent à un écolieu, en presque autonomie alimentaire et énergétique.
Mais du coup, si vous donnez plus de pouvoir à des ultra-riches et en même temps, là c'est un peu contradictoire de donner plus de...
J'ai écrit 16 livres, je connais parfaitement mon sujet, il n'y a aucune contradiction dans mes propositions. Elles sont tout à fait compatibles et complémentaires. Le sujet que vous évoquez n'a rien à voir avec le fait que nous proposons à un ultra-riche qu'il accepterait de gérer sans fonds publics un des thèmes que je vous ai expliqué dans une région de leur choix, où ils sont nés. Par ailleurs, ça n'a rien à voir. Le décideur citoyen, parce qu'on pense aux décideurs politiques, mais il y a évidemment aussi le décideur citoyen, qui, par ses actes de consommation, renforce ou affaiblit Total.
Mais pensez en tout cas que les ultra-riches peuvent se limiter eux-mêmes et que la main invisible existe, ça peut relever du mythe, honnêtement.
Ah, pas du tout. La main invisible n'existe pas, monsieur.
Ah oui, voilà, on est d'accord.
Ah, mais tout à fait d'accord.
Comment voulez-vous justement que les riches s'autorégulent alors que vous allez leur donner plus de pouvoir ?
Ah, mais je ne souhaite pas du tout les autoréguler. Je souhaite simplement... Moi, je suis dans le monde réel, je ne suis pas dans le monde parallèle ni dans les suppositions. Vous savez que j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France, que je suis conférencier sur la santé, l'environnement, l'économie. Donc, j'ai des domaines d'incompétence, mais j'ai aussi des domaines de compétences. Donc, la main invisible du marché, ça conduit à un désastre. Je vous ai dit tout à l'heure que le socialisme, le communisme et le libéralisme, qui par nature devient ultra-libéralisme, est un gros problème pour le bien public et pour le bien commun. Donc, le fait de confier un élément très particulier d'un projet de société à une ultra-riche pendant 2 ans, sans fonds publics, c'est forcément bénéfique pour tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec le fait de leur laisser la main invisible ou quoi que ce soit. Simplement, c'est la compétence. Mais j'observe effectivement que dans notre pays, la compétence, c'est un gros mot. Pour moi, la compétence, c'est la solution.
D'accord. Êtes-vous pour un impôt européen sur la fortune qui permettrait notamment de limiter l'évasion fiscale dans des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande ?
Nous sommes favorables au rétablissement de l'ISF, par exemple, donc qui pourrait être fait au niveau européen. Mais il faut prendre garde que si vous parlez aux milliardaires ou aux ultra-riches, donc 500 milliardaires et 50 000 ultra-riches dans l'Union européenne, si vous taxez mal ou si vous taxez trop, ils vont aller ailleurs. Moi, j'ai besoin qu'ils payent des impôts, j'ai besoin qu'ils contribuent d'employés, parce que ce sont les plus gros employeurs d'Europe, mais j'ai surtout besoin de leurs compétences.
Et donc, vous êtes pour une renationalisation d'EDF parce que vous parlez d'une fin de concurrence dans le domaine énergétique ?
Non, on n'est pas pour une fin de nationalisation d'EDF. On est pour ce qui est efficace.
Une renationalisation.
Non, ce qui est, la première source énergétique, c'est l'éducation à l'environnement. Donc, évidemment, personne n'en parle. Donc ça, c'est la première ressource énergétique. Il n'y a pas meilleure ressource énergétique que l'éducation à l'environnement. Parce que si vous éduquez à l'environnement les enfants, les jeunes, les adultes et les seniors, ils vont forcément moins consommer puisqu'ils vont prendre conscience de ce qui se passe. Le deuxième élément d'une politique énergétique saine, évidemment, personne n'en parle, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, vous recyclez tout et vous réparez tout. Parce que ce qui consomme plus d'énergie, c'est la fabrication de produits.
Et quels moyens seront mis en place pour, disons, une éducation populaire à l'écologie ?
Ah ben, c'est que le politique doit enfin comprendre que son rôle n'est pas que orienter les budgets. Donc actuellement, le politicien conventionnel, il pense qu'il faut que orienter les budgets. Nous pensons que ça, c'est une facette de son travail. L'autre facette de son travail aussi importante, c'est de faire de la pédagogie et donner des informations importantes.
Alors, beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que le capitalisme a besoin de chômage pour fonctionner. Vous, vous dites que, en tout cas selon votre parti, que l'économie circulaire, la rénovation énergétique, les énergies renouvelables et les fermes paysannes en cumulé permettraient le plein emploi. Alors, est-ce que le plein emploi est un mythe selon vous, premièrement ? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a le plein emploi et le fait d'avoir un bon emploi ? Parce que là, on ne choisit pas forcément l'emploi qu'on veut.
Ah, vous avez tout à fait raison. Donc, d'ailleurs, les incompétents qui nous gouvernent, les décideurs macronistes, nous expliquent que le plein emploi, c'est 5%, ce qui est totalement stupide. Donc, vous savez que je suis détenteur du trophée de l'emploi, j'ai écrit 2 livres sur le sujet. Donc, le plein emploi, c'est le plein emploi. Donc, c'est qu'il n'y ait aucune personne qui soit en chômage forcé depuis plus de 3 mois. Donc, des personnes au chômage quelques semaines, ça ne me pose pas de problème. Mon problème commence quand une personne est au chômage depuis plus de 3 mois. C'est ça, le plein emploi. Et effectivement, par l'agriculture paysanne, vous savez qu'à 60 ans, il y avait 0 chômeur en France, puisque la population active agricole était de 15%, aujourd'hui elle est de 2%, donc il faut absolument redonner ces lettres de noblesse à la population active agricole. Et c'est vrai que si vous y rajoutez la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, ce type de sujet, eh bien vous obtenez mathématiquement le plein emploi.
Et concrètement, comment vous comptez mettre ça en place ? Mettre plus d'agriculture paysanne, par exemple, concrètement, une fois élu
Le fondement, c'est l'éducation. Le fondement de notre projet de société, c'est l'éducation. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes sont éduqués dans le digital et dans le béton. Comment voulez-vous qu'ils soient intéressés par ce qui est naturel, ce qui est agricole ? Donc, il faut absolument multiplier les classes vertes. Et il est capital que l'éducation qui soit donnée aux jeunes soit au maximum faite dans la nature. Et pourquoi pas carrément dans des fermes ? Parce que c'est les mutiler que d'élever tous nos jeunes dans le béton et dans le digital. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. C'est extrêmement grave pour leur épanouissement. C'est extrêmement grave pour leur facette spirituelle. C'est extrêmement grave pour leur santé. Et c'est extrêmement grave parce qu'effectivement, plus personne ne veut être paysan puisqu'ils n'ont pas été élevés dans ce cadre.
Moi, je me permettrais quand même de rajouter quand même que l'éducation, notamment le fait que les jeunes, entre guillemets, cette génération a beaucoup accès aux médias notamment et avec le numérique, ça permet notamment d'avoir des jeunes qui sont très militants écologistes, qui se rendent compte de c'est la catastrophe qu'on fait face au niveau planétaire. Sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas, ou même sans les téléphones, il n'y aurait pas autant de mobilisation de jeunes dans la rue pour l'écologie.
Ah, j'ai pas dit qu'il fallait supprimer les réseaux sociaux.
Oui, mais je précise.
J'observe que nous sommes dans une société digitale un peu végétale, et nous, écologistes centristes, nous voulons une société végétale un peu digitale. Et quant à ce que vous exprimez concernant la conscience des jeunes sur le climat, elle est fausse. C'est une toute petite minorité des jeunes qui manifestent, une toute petite minorité des jeunes qui manifestent, une grande majorité des jeunes qui ne votent pas, sinon Jadot serait président. Donc la conscience que vous pensez supposer, peut-être souvent on juge d'après les personnes que nous fréquentons, mais la réalité de la jeunesse française, c'est que malheureusement, elle n'a pas conscience de la problématique environnementale, sinon elle serait beaucoup plus nombreuse pour militer dans la rue, et évidemment, beaucoup plus nombreuse pour voter pour un projet écologiste.
Vous ne pensez pas justement que c'est un problème de classe aussi, de ne pas avoir conscience, de ne pas avoir accès ?
Problème d'éducation, vous voulez dire ?
Non, oui.
Comment de classe ?
On n'a pas tous accès à la même éducation selon notre classe sociale.
C'est vrai. Donc... c'est pourquoi le socle de notre projet de société est une nouvelle éducation qui ne peut être issue que d'un débat national public de 6 mois, au terme duquel un référendum et les Français votent pour savoir quelle matière, quelle formation pour les enseignants, est-ce que l'après-midi on fait que du sport, est-ce que l'après-midi on fait que de la culture, à quel moment on met l'orientation. C'est un sujet immense qui est irréformable sans débat national public et sans référendum.
Merci beaucoup Jean-Marc Governatori, je suis vraiment désolé, les 12 minutes passent extrêmement vite, merci beaucoup Agathe.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci beaucoup Mati, on va se quitter sur To Love de Suki Waterhouse. C'était To Love de Suki Waterhouse.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Rebonjour, rebonsoir à la matinale. Il est 19h20, passé de 30 secondes. Seb, tu nous parles de ton programme économique pour l'Europe ce soir.
Oui, tout à fait. D'abord, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'inviter à la place des fédéralistes européens et en tant que leader de mon propre parti, le Parti Remise, pour parler de toutes ces thématiques qui me passionnent parce que en ce moment, on a du mal à convaincre nos compatriotes. Selon une étude d'opinion Euroleague Sterling, IFOP fiducial. Je suis à grosse burne pour 100 des intentions de vote pour les européennes. J'aimerais vous présenter mon programme que je qualifierais d'ultra libre et râle. C'est-à-dire qu'on est ultra libre de râler contre ce programme, il n'y a pas de galère. Ma promesse en matière d'économie, c'est de changer le logiciel de l'Europe. Ça en jette cette phrase, non? Par exemple, si le logiciel de l'Europe, qu'est-ce que j'en sais moi, c'est Microsoft Office 365, bah on l'en change et pour une autre suite bureautique, comme par exemple LibreOffice, ou encore mieux, LibreRal Office. Alors, pour parler économie, il faut bien redéfinir ce qu'est la fiscalité. Qu'est-ce que la fiscalité? Alors, pour parler fiscalité, il faut bien redéfinir ce qu'est le capital. Qu'est-ce que le capital? Alors, pour parler capital, il faut d'abord bien redéfinir ce qu'est l'investissement. Qu'est-ce que l'investissement? Alors, pour parler investissement, il faut d'abord bien redéfinir ce qu'est l'économie. Ah, l'économie, je suis coincé. Aïe, 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 je suis coincé. Bon, peu importe. Laissez-moi vous présenter trois mesures fortes du Parti Remise. La première mesure, c'est 256,4 mètres. Je plaisante, comme quoi, c'est pas parce qu'on est tête de liste aux élections européennes qu'on peut pas être un joyeux cabotin. La première mesure, et je vais laisser mon porte-parole porter la parole à parler à ce sujet, en tout cas c'est ce que j'aurais dit si j'en avais un, c'est d'investir une somme d'argent conséquente, par exemple 10 euros ou 10 milliards d'euros, je n'ai pas encore décidé, au niveau européen dans 5 secteurs clés. Les trousseaux, la serrurerie, le porte-à-porte, l'USB et Fort Boyard, voilà, ce sont les 5 secteurs clés. La deuxième mesure, elle concerne non pas les retraites, mais la question des retraites. C'est pareil, c'est totalement pareil. Les Français et les Françaises n'en peuvent plus que le système de retraite soit géré par chaque État membre. Je le sais, je leur ai posé la question un par un aux 67,97 millions de Français. C'était une tâche titanesque, ça m'a pris 283 ans alors que j'en ai que 29. Mais écoutez, c'est ma méthode de travail pour réaliser des sondages d'opinion, on est perfectionniste ou on l'est pas. Et justement, 283 ans, c'est l'âge de départ à la retraite qui nous attend si on continue de se laisser faire comme ça avec toutes ces réformes. Donc on arrête de se compliquer la couillette et on établit une directive au niveau européen. L'âge de départ à la retraite correspond au nombre de lettres du nom de l'État membre. Alors vous allez me dire, oui, mais pour la France, c'est 6 ans. Du coup, eh ben oui, c'est 6 ans. On n'aime pas le changement, j'ai pas le droit de proposer ça, c'est ça. Liberté d'expression à double variable géométrique unique, mais couille, est-ce que je vois. Et enfin, la troisième mesure de notre parti, last but not tête de liste, j'ai envie de dire, c'est la mise en place stricte de notre taxe avril. C'est en me poilant devant Tex Avril au petit-déj que j'ai pensé à ça. Les citoyens seront tenus de déclarer leur farce du 1er avril auprès des autorités fiscales en fournissant des détails sur la nature de ladite farce et de son impact. Responsabilité, civisme, respect, mot d'élément de langage au hasard. Je rappelle qu'un poisson dans le dos, c'est de la dette en trop. Voilà. Je vais laisser Clément, Nathalie et Marie-Pierre aborder plus en détail l'ensemble de ces propositions. C'est faux, j'ai aucun collègue qui s'appelle comme ça. Faut vraiment que j'arrête d'essayer de m'en inventer. Ça devient gênant pour tout le monde. Donc je vais plutôt dire votez pour nous, pour une Europe libre et râle. Faites le bon choix le 9 juin.
Merci Sébastien, on sait quel choix maintenant faire. C'est vrai que j'hésitais encore jusqu'au dernier moment. L'Europe libre et râle, le Parti Remise est celui qui aura mon vote. Et maintenant sur Radio Campus Paris, on va passer au Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et en call avec nous, Stéphanie Villers, spécialiste du décryptage de l'actualité économique reçue par Héloïse et Mathis. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour.
Super, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Alors le 13 mai 2024, la 7e édition du sommet Choose France a eu lieu à Versailles. Cet événement, créé pour consolider l'attractivité française à l'international, a rassemblé près de 200 chefs d'entreprise étrangers de 40 nationalités différentes. Ne faudrait-il pas privilégier finalement un tel salon à une échelle plus européenne entre États membres ?
Alors, vous avez tout à fait raison, hein, étant donné les défis qui nous font face, hein, faut voir que on a la concurrence de deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis. Et on se doute bien que la France seule ne peut pas grand-chose hein, par rapport à ces deux mastodontes. Pour autant, elle fait partie de la zone euro hein, avec ses 20 membres. Et c'est à ce niveau-là qu'effectivement que, le développement économique devrait se faire pour pouvoir en fait rentrer dans une concurrence réelle et tangible par rapport aux États-Unis et la Chine.
Alors, juste avant de vous avoir, on avait donc à ce micro donc le coprésident du parti Écologie au Centre, donc Jean-Marc Governatori. et on parlait justement donc de du financement et de l'écologie. Et justement, on voulait vous demander, est-ce qu'on va assez vite dans le financement donc de la transition écologique aujourd'hui?
Alors, on va jamais assez vite parce que bon, on sait qu'on est dans on vit dans une planète de moins en moins habitable et qu'il faut trouver des solutions. Et que en face, en fait, on a eu une réponse américaine très dynamique et assez inquiétante. Avec, je vous rappelle que Joe Biden a mis en place il y a 2 ans l'IRA, qui est l'Inflation Reduction Act, en fait, qui vise à subventionner toutes les entreprises qui s'implantent aux États-Unis ou qui sont déjà aux États-Unis, à hauteur de 370 milliards de dollars. Et ça, en fait, ça rentre directement en concurrence avec ce qui est mis en place au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a bien du mal, en fait, à rassembler une telle somme pour arriver à développer elle-même, en fait, sa propre stratégie en matière de transition écologique. Alors, je ne veux pas dire que rien n'a été fait hein, pour l'instant, parce que quand même, l'Union européenne s'est quand même saisie hein, du dossier, l'Union européenne a mis en place, après la crise Covid, un fonds commun de 750 milliards qui s'appelle EU Next Generation et qui vise en fait à soutenir toute la dynamique de transition écologique mais aussi de nouvelles technologies. N'empêche qu'au sein de l'Europe, il reste quand même des difficultés à flécher ces financements. Alors, parce que si on s'aperçoit en fait que les grands mastodontes de l'univers des technologies vertes, hein, telles que les batteries, la voiture électrique ou encore l'hydrogène, en fait, ils se retrouvent principalement en Asie, un peu aux États-Unis, mais surtout en Asie, et que nous, en fait, en particulier en France, dans ce domaine-là, en fait, on a su créer que des start-up ou des PME et on n'a pas su les aider, en tout cas jusqu'à présent, à croître. Alors, il y a des financements, l'Union européenne a quand même les moyens, mais on n'arrive pas, en fait, jusqu'à présent, à réellement flécher cet argent vers ces entreprises qui sont trop petites, mais qui devraient avoir vocation à devenir beaucoup plus importantes.
Et alors, ce fonds, justement, pour la transition écologique, est-ce qu'il est assez, justement, face aux défis qu'on a de cette crise climatique ?
Oui, comme je vous disais, en fait, c'est pas tant un problème de moyens. Je dirais que c'est un problème d'efficacité. C'est-à-dire que l'Europe, hein, l'Union européenne a su lever des fonds internes, publics, et en plus, en fait, il faut savoir que l'Union européenne a une épargne au sein de chaque pays membre qui est quand même colossale. Je vous rappelle que la France, l'Allemagne, on est des grands épargnants. Et en fait, il faudrait se saisir en fait de cette manne financière pour financer la transition écologique. Bon, alors, on a l'argent, on a les moyens, mais la grande problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à orienter cet argent vers les bons projets. C'est-à-dire que on arrive, on met énormément de temps, il y a beaucoup de procédures, et là, on retrouve tous les travers de l'Union européenne. Vous savez que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne en disant qu'il y avait trop de réglementations et qu'en fait, ça tuait le business. En quelque sorte, même si les choses s'améliorent peu ou prou, parce que l'Union européenne a pris conscience en fait, de ces dysfonctionnements, reste que, en réalité, les procédures et la réglementation semblent trop importantes en fait pour dynamiser et bien flécher ces investissements. Et si on regarde aux États-Unis, c'est tout le contraire. Quand Joe Biden lance l'IRA, c'est un guichet unique avec une vraie facilité à aller chercher de la subvention.
Mais du coup, concrètement, les leviers d'action, ce serait avoir moins de réglementation selon vous?
Je suis pas contre la réglementation parce que faire n'importe quoi aussi, ça arrive à des dérives. Mais en tout cas, essayer de simplifier. En fait, c'est plus un devoir de simplification et d'efficacité pour que cet argent, ces liquidités, arrivent au bon endroit et aident les entreprises dans le domaine de la transition écologique, qui sont en France et en Europe des petites entreprises, en fait, des start-up, en gros. Voilà. Donc, en fait, on a énormément de compétences, on a les bonnes compétences en Europe, on n'en manque pas, en particulier en France, notamment dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. On a les moyens, enfin, on a les moyens au niveau européen, on a du mal à se mettre d'accord. Et on a surtout du mal à fluidifier, en fait, les circuits de financement. Voilà.
Et vous parliez des fonds qui n'étaient peut-être pas seulement nécessaires à aider à cette transition écologique, mais quand on voit qu'une entreprise comme Total Energy qui emploie plus de 100 000 collaborateurs dans près de 130 pays pollue énormément, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer aussi des taxes ou des impôts sur de telles entreprises pour lutter contre cette crise climatique?
Alors la crise climatique, si vous voulez, elle est liée aussi à notre vaste mouvement qu'on a connu les 30 dernières années de mondialisation heureuse. Il faut savoir que ce sont les pays occidentaux qui ont délocalisé massivement leur production et qui sont allés vers les pays à bas coût. Et c'est cette situation quand même qui a développé notamment les pays tels que la Chine et qui a créé en fait en fait qui a accru la pollution telle que vous la définissez. Donc en fait aujourd'hui c'est pas tant mettre des taxes sur les entreprises françaises quelles qu'elles soient, c'est mettre des taxes sur des productions qui viendraient de la zone hors Union européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a en face les États-Unis et la Chine. Se sont mis à développer le protectionnisme à tout va, en mettant des barrières douanières. Hein, les États-Unis, depuis Donald Trump, n'hésitent pas à taxer toutes les productions qui viendraient en dehors de la zone américaine, en particulier surtout ceux qui viennent les produits qui viennent de la Chine. Et en fait, nous, en fait, l'Union européenne, on est un peu naïf dans cette histoire, c'est que nous, on prône le libre-échange. Donc on est contre en fait ce type jusqu'à présent, hein, parce que maintenant on a un peu changé notre fusil d'épaule, parce qu'on ne peut pas être seul à vouloir du libre-échange. Hein. Il faut qu'en face, le partenaire soit d'accord. Mais... Si on est tout seul, on est le perdant. Donc en fait, c'est plutôt au niveau des frontières de l'Union européenne qu'il faudrait taxer. Hein, c'est véritablement ça, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone. Hein, c'est-à-dire que on ne veut pas importer de la pollution qui viendrait de l'extérieur.
Mais justement, ce que vous dites là, c'est bien d'un point de vue de souveraineté, mais est-ce que ça ne revient pas justement à relocaliser notre pollution?
Bah, nous, en fait, il faut faire un constat réaliste, même si, on reste des pollueurs. Mais en termes d'énergie, on n'est quand même pas, on n'a pas de ressources réellement d'énergie carbonée, d'énergie polluante. Et on a tellement pas le choix. Et on a vu, en fait, tous les dysfonctionnements de dépendre des énergies telles que le pétrole et le gaz vis-à-vis de la Russie, on s'est rendu compte que même ça nous a coûté extrêmement cher. Hein, c'est bien d'importer des produits qui polluent, mais enfin, après, c'est au-delà de la pollution, il y a une problématique économique, c'est un problème d'autonomie dans notre production. Donc aujourd'hui, en fait, l'Union européenne n'a pas d'autre solution que de créer sa propre énergie, et l'énergie, elle ne peut être que propre, parce qu'on n'a pas, on ne dispose pas dans nos ressources d'énergie carbonée.
Merci énormément Stéphanie Vuvillers pour ces premières réponses. Restez avec nous, on fait juste une petite pause musicale avec Sensation of Cool de Truth.
Comforting breath.
C'était Sensation the Truth sur le 93.9.
La matinale de 19h.
Juste avant cette pause musicale, nous recevions Stéphanie Villers, spécialiste du décryptage de l'actualité économique. Est-ce que vous nous entendez toujours ?
Oui.
Alors tout à l'heure, vous parliez de délocalisation vers la Chine. Alors si on aborde le sujet de dumping social, l'autorité européenne pour le travail a été inaugurée en 2019 avec l'objectif de mieux encadrer la mobilité des travailleurs. Et parmi les champs d'action de l'organisme, on compte aussi l'encadrement du dumping social. En bref, le dumping social, c'est délocaliser la main-d'œuvre vers un pays où celle-ci coûte moins cher, rendant ainsi les entreprises plus concurrentielles au dépit des travailleurs du pays de base. Aujourd'hui, le dumping social est-il toujours monnaie courante ?
Alors, c'est compliqué Les entreprises n'ont pas uniquement délocalisé pour avoir des pour pouvoir bénéficier davantage de moindres droits sociaux qui leur permettraient de payer des salaires moins élevés. Il faut quand même se rendre compte que la Chine, parce que c'est quand même ça dont il faut parler, hein, c'est quand même le pays qui s'est le plus développé à travers la mondialisation, la Chine reste quand même un marché colossal pour les entreprises occidentales. Donc en fait, c'était gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on allait se délocaliser, les entreprises allaient se délocaliser là-bas, avaient effectivement des coûts de production beaucoup moins élevés, et en plus pouvaient bénéficier d'un pays qui était en plein développement. Je vous rappelle, ils ont la Chine, c'est une vingtaine d'années avec un taux de croissance à deux chiffres de manière annuelle. Donc, en fait, c'était relativement conséquent. Aujourd'hui, en fait, le dumping social, en fait, l'inquiétude se porte au sein même des pays de l'Union européenne. Pas tant parce que en fait les normes ne sont pas les mêmes, les droits sociaux ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, même si ces normes tendent à s'harmoniser. Il n'empêche que vous avez tous entendu parler en fait des travailleurs polonais qui étaient surtout en Angleterre, mais qui étaient véritablement une vraie main d'œuvre, une manne. Hein, pour les pays tels que la France, l'Allemagne ou par exemple l'Angleterre, parce qu'ils étaient moins chers, parce que leur contrat de travail était moins protecteur. Et c'est plutôt en fait à ce niveau-là de construire en fait une harmonisation de ce qu'on appelle la protection sociale, des droits sociaux au sein même de l'Union européenne pour éviter de se faire concurrence entre pays membres.
Et on en est où là dans ces mesures-là ? Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? On est toujours dans une logique concurrentielle inter-Europe ?
Alors, c'est pas. Voilà. Ça reste quand même des négociations au sein de l'Union européenne qui suivent le rythme qu'on connaît, c'est-à-dire c'est un rythme très lent, parce qu'il faut, pour ce type d'accord, il faut il faut l'unanimité de l'ensemble des pays de l'Union européenne. On a du mal en fait à obliger certains pays qui n'ont pas le même niveau de développement, hein, les pays de l'Est, mais certains pays du Sud aussi sont moins développés que les pays du cœur de par exemple de la zone euro. Et compliqué de leur imposer des normes qui ressemblent aux nôtres. Mais en tout cas, c'est véritablement vers quoi on s'achemine. Hein. La construction européenne, elle n'en est qu'à son début, en fait. Hein. On cherche de manière permanente à essayer d'harmoniser notre système. On a réussi à harmoniser, à nous unir au niveau de notre monnaie, en tout cas pour la zone euro. Après, petit à petit, il faut une harmonisation de notre politique budgétaire, notre politique sociale, notre politique fiscale. Et tout ça, en fait, se fait sur le temps très long.
Et justement, vous parlez d'harmonisation, de construction. Face aux grandes puissances économiques, faut-il, selon vous, se poser la question de la souveraineté au niveau national ou l'étendre au niveau européen ?
Comme je vous disais en préambule, on peut toujours se la poser au niveau national, mais ça n'a pas réellement de sens. On n'a pas de moyens de lutter seuls, je parle de la France, mais l'Allemagne c'est pareil, ou l'Italie, seuls ces pays-là ne pèsent pas lourd par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Donc en fait, on est pris à notre propre piège, c'est-à-dire qu'on a un problème on veut conserver une certaine forme de souveraineté nationale. Or, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, ça doit se jouer à l'échelle européenne. Mais ça, ce sont des choix politiques. Moi, je peux parler qu'en tant qu'économiste, hein, en fait, pour mettre en avant en fait, les dysfonctionnements. Mais derrière, en fait, il y a des réels choix politiques à mener,
et donc,
à faire.
Comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc juste avant vous, on recevait donc Jean-Marc Governatori, donc le coprésident du parti Écologie au Centre. Et parmi ces propositions donc, économiques pour financer donc, l'écologie en Europe, il y avait, bon, je vais essayer de le paraphraser sans le trahir, mais utiliser donc, les très riches et les faire gérer un domaine écologique, que ce soit dans l'agriculture ou autre, dans une région de leur choix. Mais en tout cas, mettre à profit ces très grandes richesses et les faire gérer sans aide étatique, un domaine écologique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mesure?
Alors, j'ai du mal à comprendre, à les laisser gérer concrètement quoi, en fait.
C'était des domaines écologiques. Il y avait notamment donc, la gestion de l'agriculture, en tout cas des grandes thématiques écologiques, et qu'il fallait justement se servir de ces grandes puissances, non pas forcément les taxer comme on a pu l'évoquer, mais justement les utiliser à des fins voilà, de gestion écologique sur une région donnée. Vous, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'envisageable, non, c'est utopiste, c'est...
Bah, écoutez, il faut réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours plus fort en s'unissant. Et le principe de partenariat public-privé me semble avoir plus d'efficacité que de demander au privé de sauver le monde en quelque sorte. Hein, une entreprise, je vous rappelle que la durée de vie d'une entreprise moyenne en Europe est de 60 ans. Donc elle, en fait, elle est moins longue que notre propre vie. Donc on peut pas imposer, en tout cas c'est mon point de vue, hein, on peut pas imposer aux entreprises l'objectif en fait final de sauver la planète. En fait, il faut là aussi, en fait, je pense qu'au contraire, c'est plutôt à la collectivité, à l'opinion publique, à l'ensemble des citoyens de se saisir de cette problématique-là plutôt que de renvoyer à la patate chaude, donc l'urgence, à des entreprises qui gagneraient de l'argent.
On va maintenant parler plus de paradis fiscal et d'évasion fiscale. Au niveau des États de l'Union européenne, l'ONG Tax Justice Network évalue à 130 milliards de dollars par an la perte de recettes liées à l'évasion fiscale. En réexpliquant peut-être rapidement ce qu'est un paradis fiscal, comment éviter ces évasions?
Bah, on essaye, hein. Il y a, là aussi, on a bien vu que les paradis fiscaux, en fait, qui sont des zones où les taxes n'existent pas ou existent très peu. Donc, on voit tout l'intérêt d'aller se domicilier là-bas pour ne pas payer d'impôts. Et n'empêche que, en fait, ces zones-là se sont développées de manière totalement légale. En fait, il n'y a rien d'illégal. Donc après, il faut en fait que là aussi, mais là, ça va au-delà de l'Union européenne. Il faut qu'au niveau mondial, en fait, qu'on s'accorde à diminuer le poids de ces paradis fiscaux. Mais c'est déjà un peu un tantinet le cas. Avec une taxe qui a été au niveau mondial, qui a été définie à 15% minimum. Donc, chaque État, en fait, est d'accord avec le principe de taxer au minimum 15% des bénéfices. Donc, c'est déjà, en fait, une première étape. Tout ce. Voilà, c'est. Pour que ça fonctionne. Il faut que l'ensemble des pays qui constituent la zone de l'OCDE en fait soit d'accord. Et l'OCDE a mis plus d'une quinzaine d'années à arriver à cet accord d'une taxe minimum à 15%.
Peut-être une petite dernière question très rapidement. Plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, veulent que l'UE commence des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie avant la fin du mois de juin. Pour finir, quelles seraient les conséquences économiques de cette possible adhésion ?
Disons que ça, c'est pas des conséquences économiques. Là, c'est des choix politiques et qui, compte tenu en fait de la situation actuelle de l'Ukraine, dépassent clairement en fait les avantages ou désavantages économiques. Donc à aujourd'hui, en fait, on peut pas répondre à cette question d'intérêt économique d'intégrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne. C'est pas une priorité économique pour l'Union européenne d'intégrer l'Ukraine, ni même inversement en fait.
Merci énormément Stéphanie Villers d'avoir répondu aux questions de nos chers bénévoles, et on se quitte sur Optimus Pride de Meeting June.
Merci.
C'était Optimus Pride de Meeting June.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Simon, Marie, bonsoir pour cette chronique. Vous vous convertissez en présentateur de météo.
Tout à fait. Madame, monsieur, bonsoir. Et dis donc, c'est les giboulets de mai cet après-midi. Les giboulets de mai. Et pas de mars. Parce qu'on est en mai.
Je l'avais pas.
Mais ne croyez pas que cette réflexion est hors sujet par rapport à cette émission, parce qu'avec cette pluie, heureusement que j'ai créé une auto-entreprise, parce que du coup, j'avais un ciré. Bam! Humour économique, elle fait semblant de rire, c'est dégueulasse. La suite arrive, Louise, attention. Après, les meilleures blagues qu'on peut trouver à la radio sur l'économie, si je peux me permettre, c'est pas sur Radio Campus Paris, c'est sur BFM Business. Parce que pour votre gouvernance de l'Union Européenne, le B de BFM, c'est business. Ce qui veut dire que BFM Business, ça se dit Business FM Business, techniquement. C'est comme si le parti des jeunes zémouristes se renommait Génération Z Zemmour. Ça se dirait Génération Zemmour Zemmour. Oui, pardon, parce que j'ai encore quelques relents de l'émission de la semaine dernière. Oui, parce que pour les gens qui suivent les mardis de l'Europe, mardi dernier, voilà, on a collaboré. Merci Héloïse Robert, la coordinatrice de l'émission, qui invite l'extrême droite.
Nanana, le pluralisme, nanana.
Et le jour où l'extrême droite vient, elle est même pas là, et c'est à la stagiaire de le faire le SAV. Courage, courage Inès. Après, faut pas voir en ça un complot d'Héloïse pour nous mettre dans la merde et pas assumer après, hein, parce que il n'est pas sans rappeler qu'elle vient du Maine-et-Loire. Donc pour elle, Éric Zemmour, il est de centre-gauche. En revanche, il faut peut-être voir un complot à l'encontre de ma personne, je me permets de préciser, parce que la dernière fois que je viens à la matinale pour faire une chronique, je défends Guillaume Meurice, et comme par hasard, l'émission où je suis censé revenir, c'était hier, et l'émission est annulée. Donc,
mais Simon, hier, enfin, c'était la Pentecôte.
Le Molière est attribué à Sofiane. Ah bah tiens, l'excuse de la Pentecôte, elle arrive tous les ans, celle-là. Hein.
Simon, la Pentecôte, c'est tous les ans.
C'est tous les ans. Ah, c'est marrant parce que la production de la matinale, elle m'a dit que la Pentecôte c'était un lundi sur deux. Genre le même lundi sur deux où ma chronique elle est supprimée. Et bah voilà. Et venez pas me dire que je peux venir qu'une semaine sur deux pour des raisons économiques. C'est le sujet de cette émission. Parce que la radio elle est associative de toute façon. Je savais que je dérangeais dans cette radio hein, parce que je dénonçais un peu trop la droite et l'extrême droite. C'est pour ça qu'Héloïse elle s'est vengée. Elle s'est vengée en me faisant dire bonjour à un type d'extrême droite. D'ailleurs j'espère qu'il a compris parce que je lui ai pas dit bonjour en allemand. Je sais que c'est pas sur mes doigts qu'il a tapé après l'interview, c'est de toute façon c'est sur le genre qui ont fait l'interview. De toute façon, j'ai compris que j'étais plus le bienvenu dans cette émission. J'ai bien vu que tout le monde essayait de me remplacer. C'est pour ça qu'il y a un nouvel humoriste par semaine dans la matinale en ce moment. Hein. De toute façon, là par exemple aujourd'hui c'était Jean-Marc Governatori avec son spectacle écologie au centre. Non pas à gauche, non pas à droite, non plus au centre. Non le centre il est pas sur la plaque, il est vraiment à côté. Non il est vraiment à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on a ri ? On a ri ! C'est comme dans Governatori, Yari. Oh là là, j'avoue, il est peut-être un peu plus marrant que moi. Effectivement, la blague était vraiment pas terrible. Parce que quand tu vas dans le détail du spectacle en plus, il y a vraiment des sketchs, mais c'est gueulerie. Mais vraiment, rien que quand tu vas sur le site internet, il y a écrit ni éco-violence, ni EELV, ni Macronie, ni NUPES, ni RN. Ni RN, ça implique donc de lutter un poil contre l'extrême droite. Sauf que dans le même temps, il sort des saillies sur Sandrine Rousseau, genre en disant Sandrine Rousseau porte un préjudice mortel à l'écologie politique. Ah tiens. Sur le papier, on pourrait dire que c'est pas d'extrême droite, suffit d'être de gauche mal informé et Sandrine Rousseau est effectivement un préjudice. Mais en revanche, quand Jean-Marc Governatori lutte contre l'extrême droite, il bitch contre Sandrine Rousseau, mais au JDD. Et il lutte contre l'extrême droite. Bon, après, vu que son parti il aura pas d'eurodéputé, autant se préparer à faire le point virgule, parce que là, faut essayer de rebondir. Bon, pendant ce temps, je préfère dire à la coordination de la matinale qu'elle peut me virer de l'émission. Non, j'ai pas envie de lui dire ça, parce que je suis quand même un peu plus amusant que Jean-Marc Governatori. Enfin, je suis un peu plus drôle que lui, mais autodiague, donc j'imagine que c'est bien. Parce que quand Sandrine Rousseau elle est venue sur Radio Campus Paris, c'est juste avant la primaire des Verts, je réalisais son interview et je l'ai faite rigoler. Et vous, qu'est-ce que vous l'avez fait rigoler ? Et je lui ai dit, parce que je réalisais, et je disais, pour régler sa voix, dites Manuel Valls. Je vais vraiment dire ça. C'est une histoire vraie, tout est vrai. C'est ma petite fierté. Est-ce que. Et Sébastien, et Gauthier, et Rosalie, et Émile, et Guillaume Meurice, bientôt au point où on en est, est-ce qu'elles ont fait rire Sandrine Rousseau à Radio Campus Paris en lui disant dire Manuel Valls, bon, le loser ? Et me dites pas que cette anecdote est hors sujet, parce que Sandrine Rousseau a intégré le comité de campagne européenne de Marie Toussaint. Bon, faudra peut-être une autre chronique pour vous expliquer qui est Marie Toussaint. Mais d'ici là, je précise quand même que Manuel Valls n'a rien à voir avec le scrutin qui se tient le 9 juin, comme quoi, à force de vouloir être partout, on finit par ne plus être candidat nulle part.
Merci énormément Simon, j'avais vraiment besoin de ça ce soir, et malheureusement c'est déjà la fin de la matinale, on pleure, vous pleurez chez vous,
jusqu'à après, on pleure pas.
On se quitte dans la joie et la bonne humeur, malgré malgré mon oral pour entrer au CFJ que j'ai trouvé vraiment moyen
mais qui était
et
super.
Malgré le temps changeant à Thierry Larigot, merci à nos invités à Jean-Marc Governatori et Stéphanie Villers, merci aux bénévoles avec nous ce soir, Agathe, Mathis, Sébastien, Héloïse, Mathis, Simon, PA, en réal, Héloïse et Lucas à la coordination. Tout de suite,
Inès,
excuse-moi Inès, je t'ai oublié, tout de suite le lobby qui reçoit Piche et qui nous parle de...
Piche.
Eh bien oui, nous recevons Piche. J'ai pas tout entendu à ce que t'as dit, Swan, mais oui, nous avons Piche jusqu'à 21h avec nous, puisqu'elle vient de sortir son premier EP qui s'appelle Festin. C'est une drag queen qui fait du rap et c'est quand même assez inédit. Et puis on va aussi découvrir une jeune artiste queer hyper pop qui s'appelle Past Life Romeo. Donc voilà, faut continuer à écouter Radio Campus Paris au moins jusqu'à 21h.
Continuez à écouter Radio Campus Paris et merci Piche d'exister. J'avais envie juste de dire ça. On se retrouve demain pour la matinale. See you later et rock the vote
pour Europe.
Yay.
Ouais.